présentation des 13 volumes de l'agenda de mère 1951-1973. C'est une introduction importante. Ce sont des extraits qui ont été écrits pour présenter l'agenda de mère. Voilà, alors je vais commencer. Ce prodigieux document de plus de 6000 pages, 13 volumes, relate jour après jour pendant 22 ans l'exploration de mère dans la conscience du corps et la découverte d'un mental cellulaire capable de reformer la condition du corps et les lois de l'espèce aussi radicalement qu'un jour les premiers balbutiements d'un mental pensant ont transformé les conditions de l'anthropoïde. C'est un véritable document de l'évolution expérimentale, une révolution de la conscience qui change les lois de l'espèce. Et c'est la question même de notre temps, car bien qu'il en semble, nous ne sommes pas à la fin d'une civilisation, mais à la fin d'un cycle évolutif. Nous allons trouver le passage à la prochaine espèce ou périr. Ainsi, minutieusement qu'un savant dans son laboratoire, mère remonte à l'origine de la première formation de la matière, au code primordial, et par hasard bute sur le mécanisme de la mort, c'est-à-dire sur le pouvoir même de changer la mort, et sur une énergie nouvelle qui rejoint étrangement les plus récentes théories de la physique de la matière. La clé de la matière contient la clé de la mort et la clé de la nouvelle espèce. Tome 6, 1965. Tout un monde commence à s'ouvrir. C'est l'année où mère arrive au mental des cellules pures, sous le vieux revêtement génétique qui semble vouloir faire de nous à jamais des hommes doués de mort. Là, il y a une puissance accumulée, comme si l'on avait attrapé la queue de la solution. Un autre pouvoir de conscience dans la matière qui défra le vieux programme, une espèce de mémoire qui se construit d'en bas, une nouvelle mémoire cellulaire qui n'est plus celle du vieillissement, de la maladie et de la mort, la gravitation et tout un monde réel. Et simultanément, à ce niveau cellulaire, délivrée des vieilles lois, mère découvre deux mondes, l'un dans l'autre. Un monde de vérité et un monde de mensonge. Et ce monde de vérité est physique. Ce n'est pas dans les hauteurs, c'est matériel. Et c'est cela qui doit venir prendre la place de l'autre. Le vrai physique, c'est ce que mère appelait le transfert de pouvoir. Se pourrait-il vraiment qu'une merveilleuse liberté physique se cache dans nos cellules, alors que nous sommes là dehors à chercher des panacées illusoires? Si même un tout petit agrégat de cellules pouvait réussir à avoir l'expérience totale jusqu'au bout de la transformation, ce serait plus efficace que les grands bouleversements. Mais c'est plus difficile. Il faut vaincre la mort, qu'il n'y ait plus de mort. C'est très clair. Est-ce que la Terre entière n'est pas en train de vivre ce transfert de pouvoir, comme un jour elle est passée du règne animal au règne mental? Tout échappe, plus de point d'appui, c'est le passage au nouveau mouvement. Et toujours pour le vieux, c'est la rupture d'équilibre extrêmement dangereuse. Tome 7, 1966. L'humanité n'est pas le dernier échelon de la création terrestre. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. C'est à chacun de savoir s'il veut participer à l'aventure de l'espèce nouvelle. L'année 1966, celle de la révolution culturelle en Chine. Une révolution plus profonde s'accomplissait dans le corps qui cherchait, pour tous ces petits corps terrestres, la seule révolution qui changerait tout. On cherche le processus afin d'avoir le pouvoir de défaire la mort. C'est le mental des cellules qui trouvera la clé. C'est le périlleux passage d'un corps humain, mu par les lois du mental, à un corps mu par une loi sans nom au cœur de la cellule. Une vibration coagulée, plus dense que l'air, extrêmement homogène, d'une luminosité dorée, avec une puissance de propulsion formidable. Tout devient étrange. Il, le corps, ne dépend plus des lois physiques. N'est-ce pas qu'a dû sentir un premier vertébré sorti du milieu marin et pour un autre milieu sans nom que nous respirons aujourd'hui? Chaque partie du corps, au moment où elle change, a l'impression que c'est fini. Tous les supports ont disparu. J'ai pas de chemin. Et où est le chemin dans la prochaine espèce? Il faut bien qu'il y en ait qui le fasse. Et parfois, cet autre milieu surgit, une merveille instantanée, un état où le temps n'a plus la même réalité. C'est très particulier, un innombrable présent, une nouvelle manière d'être et de vivre. 90 ans plus tôt, une petite fille avait fait sa première révolution dans la matière. Quand on m'a dit que tout était des atomes, c'était une espèce de révolution dans ma tête. Alors, rien n'est vrai. Une deuxième révolution de la matière s'opère au niveau de la conscience cellulaire. La vieille matière et les lois apparentes se changent en un monde nouveau et en une nouvelle manière d'être dans le corps. Tome 8, 67. Cette année, toutes les données du yoga des cellules sont devenues claires. Une conviction croissante qu'une perfection réalisée dans la matière est une perfection beaucoup plus parfaite que n'importe où. La conscience exprimée dans les cellules transformées est une merveille. Ça légitime tous ces âges de misère, tous ces dieux, oh, comme ils font des embarras. Et c'est l'année de la découverte de la vraie matière. C'est dans cette limpidité cellulaire où il n'y a plus de problème. La solution précède le problème, c'est-à-dire que les choses s'organisent automatiquement. C'est un autre mode de vie sur la Terre, une manière d'être naturelle, dans un corps délivré de sa prison mentale et des lois de la fausse matière. Cette extraordinaire impression de l'irréalité de la souffrance, de l'irréalité des maladies, ça ne guérit pas la maladie, ça l'annule, ça l'irréalise. Alors on voit, à mesure que le procédé devient de plus en plus parfait, c'est nécessairement, inévitablement, la victoire sur la mort. Et pendant ce temps-là, le surveilleur va creuser le sol lunaire avec un bras mécanique, tandis que nos propres secrets restent enfouis dans la cellule. On va se promener où on veut, on sait ce qui se passe partout, mais on ne sait pas ce qui se passe au-dedans de soi-même. La guerre du Biafra fait rage, les troupes israéliennes marchent sur Suez, l'aviation américaine bombarde Haiphong, c'est la première explosion thermonucléaire chinoise. Et ça continue. Un conflit formidable au-dessus de la Terre. Avec l'enjeu d'une Terre nouvelle et du retour au vieux désastre. Une manifestation locale et momentanée n'est pas possible, mais il faut une transformation collective suffisante pour créer une nouvelle espèce sur la Terre. Le fait est sûr. Mère, comprendrons-nous où est l'issue véritable et la merveille cachée dans un corps. Tome 9, 1968, la création d'Auroville. Un feu a couru à travers le monde cette année-là, de Varsovie à Columbia, à Nanterre et à Alexandrie. Il y a eu de longs moments et l'on se prépare et où l'on prépare les choses. Et puis il y a un moment où quelque chose arrive et ce quelque chose qui va donner un nouveau développement au monde. Comme le moment où l'homme est apparu sur la terre, maintenant c'est un autre être. C'est le deuxième tournant du yoga de mère. Elle a 90 ans. On vient de fonder Auroville, un centre d'évolution accélérée. On assassine Luther King, le sénateur Kennedy, la Russie envahit la Tchécoslovaquie. Que se passe-t-il? J'ai très fort l'impression qu'on veut nous apprendre quelque chose comme le secret du fonctionnement humain terrestre. Il est démontré tout le temps que le procédé que nous avons appris est faux, n'est pas conforme à la réalité, et on veut nous faire trouver, mais en vivant, le vrai procédé, comme si la Terre était enfermée dans un bocal, prisonnière de la fausse matière. C'est comme une trame sur toute la terre, et on apprend au corps à sortir de là. Petit à petit, la conscience des cellules sort de cette emprise. Et de l'autre côté, soudain, j'ai jamais vu ni senti de si beau dans toute ma vie. Les heures les plus merveilleuses qu'on puisse avoir sur la terre. Pourquoi vont-ils chercher là-haut ce qui est ici? Le bref miracle de 68 semble englouti, tandis que les poireaux de notre bocal éclatent lentement, mais inexorablement dans chaque pays, chaque continent, chaque branche de la connaissance humaine. Il semblerait qu'il faille encore un temps formidable pour que tout soit prêt à changer. Et pourtant, c'est presque une promesse qu'il va y avoir un changement brusque. Se pourrait-il qu'un matin, un dernier tour de vie, des circonstances, nous précipite dans une nouvelle conscience. Mère. Tome 10, 1969. Cette fois, Mère a trouvé le passage, ce qu'elle appelle la nouvelle conscience, celle qui peut nous ouvrir à un nouveau monde. Autant qu'un premier miroir des eaux brisées par un amphibien nous a ouvert un nouvel air. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un état de vibration intense, comme des zones d'une rapidité foudroyante, tellement rapide qu'elle semble immobile. Alors, je vais en Amérique, je vais en Europe, jamais ce corps n'a été si heureux. Ces cellules, d'autres cellules, c'est la vie partout, la conscience partout. Tous les autres corps étaient lui. Et toute notre misère psychologique s'évanouit en même temps. C'est comme une dilatation des cellules. Les limites s'atténuent, s'effacent, et puis les douleurs s'en vont physiquement. Et ce n'est pas un autre monde, c'est la Terre. C'est notre terre, mais vécue autrement. Comme si on était entré dans un monde irréel où tout disparaît quand on sort de ça, ça n'existe pas. Et tous les autres moyens artificiels d'en sortir, y compris le nirvana, ça ne vaut rien, le salut est physique. C'est là, c'est là. Et tout le reste, y compris la mort, devient un mensonge. Devient vraiment un mensonge. Il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas la vie et la mort. Et tandis qu'elle traverse les parois de notre bocal, c'est tout le monde qui se révolte, y compris l'entourage de mère. Comme sous la pression d'un air nouveau, un nombre considérable de désirs qu'il meurt, le corps de mère, partout. Il y en a partout, toute la gamme, depuis les inquiétudes autour, les hâtes que ça finisse, jusqu'au désir impatient, enfin libre. Je voudrais qu'on me mette dans une boîte. Mais mes cellules sont conscientes. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est contraire à toutes les habitudes. Une nouvelle espèce, c'est très contraire à la vieille habitude du monde. Est-ce que le monde l'acceptera ou il finira par la tuer? Tome 11, 1900. 70. Commencent les années terribles. On a l'impression que mère avait trouvé le secret du changement, conquis tout ce qu'elle pouvait sur son corps et qu'elle était là, maintenant, au milieu de la meute, à subir toutes les résistances de la vieille espèce. Le changement est fait, tout s'acharne comme des bêtes féroces, mais c'est fini. Un nouveau mode d'aide de la conscience des cellules était apparu sur la Terre. Comme un jour dans la matière inerte, un nouveau mode d'être qui s'appelait la vie. Mais cette fois, c'était la survie. L'impression qu'il y a une manière d'être des cellules qui sera le commencement d'un nouveau corps. Mais ça, quand ça arrive, le corps lui-même a l'impression de mourir. Quelle sera l'impression d'un premier corpuscule qui découvrirait la vie? Le corps a l'impression d'être au point de l'inconnu. Une sensation très bizarre, une sorte de vibration nouvelle. C'est tellement, tellement, tellement nouveau que on ne peut pas dire angoisse, mais c'est l'inconnu, le mystère de l'inconnu. Et là, ce que nous appelons la mort est comme l'autre côté du bocal. Pour l'ancien poisson, et pourtant ce n'est pas un autre monde, c'est étonnamment l'un et l'autre. Il y a là quelque chose. Est-ce que c'est possible? Eh bien, la survie, c'est la vie et la mort ensemble. Puis ce cri de la percée, ce qui nous paraît les lois de la nature, c'est une absurdité. Un autre monde terrestre, où les vieilles lois mortelles du bocal s'effondreraient dans une autre chose. Je viens d'avoir une vision fantastique du berceau d'un avenir qui n'est pas très lointain. C'est comme une masse formidable qui est suspendue sur la terre. Mais la vieille meute la laissera-t-elle aller jusqu'au bout? Tome 12, 1971. Le dernier tournant du yoga de mer, d'où elle émerge avec un cri. J'ai marché longtemps, longtemps. Ce n'était qu'un cri tout le temps, comme si l'on m'arrachait tout. C'est tout le problème du monde. Cet agenda, de plus en plus parsemé de cris déchirants, il ne suffirait pas qu'elle ait trouvé le secret pour elle. Il fallait que les autres aussi comprennent, ses propres disciples, ses états enfermés dans leur pouvoir égoïste. Ils n'ont pas la foi. Elle est vieille. Elle est vieille. Une atmosphère de résistance au changement. C'est impossible, c'est impossible, de tous les côtés. Il ne faudrait pas perdre une minute. Je suis pressée. Il faut, oh, il faut que le règne du divin vienne. Si tout le bloc russe tournait du bon côté, ce serait un appui formidable, une victoire est certaine, mais je ne sais pas par quel chemin on pourra y aller. Il faut être accroché, tellement accroché à la vérité. Il ne m'écoute plus. Mère a 83 ans, elle tâtonne dans l'inconnu. Je ne vois plus clair, je vois plus clair les yeux fermés que les yeux ouverts. Et c'est la vision physique, purement physique, mais un physique qui paraît plus complet. C'est la conscience des cellules qui doit changer. Tout le reste suivra naturellement. J'ai l'impression que je suis en route pour découvrir l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être ininterrompu, que la mort vient d'une déformation de la conscience. L'écoutera-t-on? La laissera-t-on faire? Ce n'est qu'une mort violente qui pourrait arrêter la transformation. Autrement, le corps sait que le travail continuera, continuera. Est-ce que ce cri encore? Et dans son cri encore, il y aura un miracle, mais lequel, je ne sais pas. Alors, le tome 13, 1972-1973, est son dernier agenda. Avant de mourir, le mensonge se déchaîne. Pourtant, les gens ne comprennent que la leçon de la catastrophe. Est-ce qu'il faudra qu'elle vienne pour qu'ils ouvrent les yeux? C'est l'année du Watergate, le voyage de Nixon à Pékin, l'assassinat des athlètes israéliens à Munich, le dernier embargo pétrolier. C'est le dernier chemin de mer, un chemin parcouru de petits cris déchirants et de visions fulgurantes. La fin d'un monde et le début d'un autre. Si nous le voulons, ou même si nous ne le voulons pas, parfois, c'est tellement nouveau et inattendu que c'est presque douloureux. Et pas de la vie matérielle, mais elle apparaît autrement. Et nous lui demandions, mais est-ce un état en dehors de la matière ? Je ne sors pas de la vie matérielle, mais elle apparaît autrement. Mais c'est drôle, et c'est physique, c'est cela qui est extraordinaire. Comme si le physique se dédoublait, un nouvel état dans la matière. Et alors, régi par quelque chose qui n'est pas le soleil, je ne sais pas quoi, je touche à un autre monde, une autre manière d'être. Dangereuse, mais merveilleuse. Et comme nous écoutions son petit souffle haletant, de plus en plus haletant, qui semblait venir d'un autre côté du monde. Il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Ce n'est ni la vie ni la mort. C'est quelque chose, tu comprends. Ce n'est pas la mort qui disparaît. Les deux sont en train de changer en quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qui paraît à la fois étrangement dangereux et tout à fait merveilleux. Et si la mort était seulement l'autre côté matériel de notre bocal humain, un rivage ensoleillé pour une prochaine espèce. Un nouvel état des deux côtés du monde où la vie et la mort se changent en autre chose. Je marche sur une toute petite ligne très droite. Alors, Ganga Lakshmi qui a lu la présentation de ces 13 volumes de l'agenda de mer 1951-1973. C'est mer. Je signe mer. Voilà. Mais elle est là, elle est avec nous. Et elle continue son travail à travers nous. Merci Chobito, merci mère.